Bon matin, Nouvelle Vie. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Merci d'être là. Merci à Pasteur Claude pour la confiance. C'est toujours un privilège de venir vous annoncer la parole et ayant toujours un excellent prédicateur, selon moi le meilleur de la francophonie, devant vous à chaque dimanche matin, c'est avec crainte et tremblement que je me tiens ici. Donc, s'il y a des gens qui savent prier, est-ce que tu peux prier pour moi, s'il te plaît? Merci également à l'équipe de Nouvelle Vie pour l'accueil, super accueil. Et merci à vous d'être là, de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous sommes dans une série qui se nomme La Source, dans l'Évangile de Jean. Et je me trouve en sandwich entre deux messages de Pasteur Claude sur le miraculeux. Donc, sur la source de tous les miracles. Et c'est intéressant parce que Jésus va dire à un moment donné aux religieux, vous devez comprendre deux choses. Vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni l'Écriture. Tu dois comprendre ce que Dieu fait et ce que Dieu est. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Et l'Évangile de Jean répond également à la question la plus secrète que se posent tous les croyants. Une question que tu te poses, mais que tu n'oses pas mentionner tout haut, tout fort. La voici. Est-ce que vous croyez que Jésus est la source des miracles? Est-ce que vous croyez que Dieu est tout-puissant? Si Jésus est la source de tous les miracles, est-il aussi la source de ma maladie ou de mon malheur? Amen. Y a-t-il un lien direct entre notre consécration et nos bénédictions? Est-ce qu'il y a un lien entre mes péchés et mes difficultés? Et ce matin, nous allons regarder dans l'Évangile de Jean, je vous invite à ouvrir avec moi, et nous allons voir que Jésus se révèle comme étant la source de la grâce. Si tu le crois, dis un grand amen. Il est non seulement la source de tous les miracles, il est la source de la grâce. Et je lis dans la NBS, Jean 5, on commence au début, verset 1. Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus montait à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons ou des brebis, il y avait un bassin qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, il était couché une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes et d'estropiés. Et à ce moment-là, le texte biblique va faire une parenthèse pour expliquer une croyance superstitieuse de l'époque où on croyait que les gens attendaient le mouvement de l'eau, car un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans le bassin et agitait l'eau. Le premier qui descendait après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, et lui dit, « Veux-tu retrouver la santé? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt, quels sont ceux qui croient que les « aussitôt » de Dieu sont puissants? Amen. Aussitôt, l'homme recouvra la santé, il prit son grabat et se mit à marcher. Or, c'était le sabbat ce jour-là. Oh, oh, ça sent les problèmes. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'était pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit, « C'est celui qui m'a rendu la santé qui m'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit ça? » « Prends ton lit et marche. » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était esquivé. En effet, il y avait une foule en ce lieu. Après cela, Jésus le trouve dans le temple et lui dit, « Eh bien, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » L'homme s'en alla dire aux Juifs, c'est Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Et voyez comment tout ça se termine. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre, jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, on veut tuer Jésus, non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Amen, amen et amen. Maintenant, on a une situation un peu pathétique. On a un condensé de misère humaine. On a plein de gens. On a des malades, on a des aveugles, on a des lépreux. On a des gens qui vivent toutes sortes de difficultés, qui sont autour d'un bassin, où on croit qu'à un moment donné, un ange vient brasser l'eau, puis le premier qui tombe dans l'eau, le premier qui se jette dans l'eau est guéri. Et on est là, et probablement, si tu as déjà lu ce texte-là, tu vois ça un peu de manière poétique, où tu vois un bassin comme une piscine, tu penses que ça sent le chlore, tu penses qu'il y a des parasols puis des ballons de plage qui se promènent. Non. Non. Imagine des gens qui ne peuvent pas bouger, des gens qui sont malades, des paralysés. Ça sent l'excrément, ça sent l'urine, ça sent la sueur. C'est un lieu où il y a de la crasse partout, c'est un lieu puant. Et Jésus arrive dans ce lieu-là. La bonne nouvelle, peu importe la crasse de ta vie, Jésus n'a pas peur de la crasse de ta vie. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Jésus arrive dans cette crasse, dans cette misère, et voit ce cas désespéré. Quelqu'un qui non seulement a un besoin, mais est incapable de s'aider lui-même. Parce que lorsqu'il voit l'eau bouger, il aimerait bien aller dans l'eau pour être guéri, mais il peut pas, il est pas capable, il a besoin de quelqu'un. Puis là, son meilleur ami, c'est un aveugle. Il serait capable de le mettre dans l'eau, mais c'est pas un où la piscine. Puis il y a un autre ami qui est un boiteux, qui veut bien l'aider, mais quand ça arrive, ça va trop vite. C'est un cas désespéré. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est très triste comme histoire? Tu es cet homme. Dis à la personne à côté de toi, tu es cet homme. Tu es cette personne. Vous savez, je l'ai déjà dit ici, Nouvelle Vie, souvent la parole de Dieu, on la voit comme un miroir pour regarder le péché des autres, mais fondamentalement, on la voit comme une fenêtre pour regarder le péché des autres, mais la parole de Dieu est un miroir. Et est-ce que tu sais que dans Jean, Jean ne va pas mettre des miracles par hasard, il y a toujours un but. Quand Jean nous raconte que Jésus va faire la multiplication des pains, ensuite il va dire « je suis le pain de vie ». Quand Jésus va guérir un aveugle, ensuite il va dire « je suis la lumière du monde ». Quand Jésus va ressusciter Lazare, ensuite il va dire « je suis la résurrection et la vie ». Maintenant, qu'est-ce que Jésus veut nous dire ici? Qu'est-ce que ce miracle veut nous dire? La première chose, et si tu es d'accord avec moi, dis un vrai amen, Dieu est la source du bonheur. Amen. Dieu est la source du pardon, de la délivrance, de la joie, de la seconde chance, de la vie éternelle, de la puissance, de la liberté. Ça se trouve en Dieu seul. Il est la source. Dieu est la source seule de ta restauration. Le problème, tu es naturellement incapable d'aller à la source. Dans ta chair, tu ne peux pas. Plus encore, l'apôtre Paul va nous dire dans Éphésiens 2 que tu es mort. Plus encore, Paul va dire dans Romains 3 que tu ne veux même pas Dieu. Dans ta chair, tout en nous est rebelle contre Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, parlant de ses journées où il marche par la chair, il va dire, je fais le mal que je ne veux pas et je fais pas le bien que je voudrais faire. Je suis paralysé. Est-ce que des gens, quelquefois, c'est ton expérience comme la mienne, on est chrétien, né de nouveau, on a le Saint-Esprit en nous, mais on est dans de la colle spirituelle. On est dans de la glu. On est dans de la mélasse. On n'a pas le goût de prier. On n'a pas le goût de renoncer au péché. Puis là, on est... Tu es cet homme. Jésus va le dire. Il va dire, vous êtes esclave du péché. Tu es esclave du péché. Là, il y a des gens qui vont dire, non, c'est pas vrai. Par nature. Et je pense que je l'ai dit aussi la dernière fois que je suis venu ici. Prends un lion et offre de la salade au lion. Est-ce que le lion va manger de la salade? Si tu lui donnes, voici, un bon steak et de la salade, qu'est-ce que le lion va choisir? Le lion, il n'y a pas de lion végétarien. Il n'y a pas de lion qui dit, moi, je fais une cure minceur. Le lion va toujours choisir la viande. Pourquoi? Parce qu'il choisit en fonction de sa nature. Sans Jésus, tu choisis toujours en fonction de ta nature pécheresse. Tu choisis toujours le péché. Puis il y a des gens qui vont dire, « Pasteur Guétan, c'est ta théologie. » Non, c'est mon expérience personnelle. Nous sommes esclaves du péché. Et c'est pourquoi on est, Jésus va dire, « Vous êtes esclaves du péché. Vous êtes esclaves du diable. Par nature, on est esclaves du diable. » Les gens vont dire, « Non, Pasteur Guétan, tu vas trop loin. Si tu n'es pas d'accord, obstine-toi avec Jésus. » Jésus dit, vous êtes esclaves du péché. OK, pour que tu comprennes. C'est un homme, à un moment donné, qui aimerait acheter une maison, mais l'homme est pauvre. Il n'a pas d'argent. Puis il y a son voisin qui met sa maison en vente à 350 000. Puis il aimerait l'acheter, mais il ne peut pas, il n'a pas les moyens. Puis à un moment donné, son voisin sait que cet homme-là est très, très pauvre, puis il lui dit, OK, je fais quelque chose, je te vends ma maison pour 5 000. C'est quoi la trappe? Il dit, il n'y a pas d'attrape. Je te vends ma maison pour 5 000, mais la seule chose que je demande, c'est de garder le droit de planter un clou dans ma maison qui va devenir ta maison. L'homme retourne, il parle avec sa femme, puis il dit, c'est bizarre, mais la maison est juste 5 000, elle est tellement belle. Puis c'est juste un clou, il le plantera dans le sous-sol, son clou. Donc, ils font la transaction, payent 5 000 $, il entre dans la maison, il est content. Et quelques jours plus tard, c'est l'ancien voisin qui revient et il dit « Salut, je viens planter mon clou. » Il vient, il s'en va au sous-sol, plante son clou. Ça va. La semaine d'après, il revient. « Salut, je viens voir mon clou. » Il vient visiter son clou, il a le droit, c'est notarié. La semaine d'après, « Salut, je viens voir mon clou. » Et lorsqu'il part, le couple va voir le clou et finalement, il a mis un chapeau. Puis la semaine d'après, de semaine en semaine, l'homme vient continuellement. Pourquoi? Parce qu'il a le droit, c'est son clou. Et à un moment donné, le couple voit qu'il a mis un sac, un gros sac. Puis ils se disent, bon, c'est plate, mais quand même, la maison nous a coûté seulement 5 000 $. Et à un moment donné, l'homme revient, il quitte. Le couple oublie ça. Et à un moment donné, ça commence à sentir dans la maison, ça pue, ça pue, ça pue. C'est incroyable. Le couple cherche à droite et à gauche. Et finalement, ils se rendent compte, ils descendent, puis ils voient que le clou, il y a un gros sac et ça suinte, ça coule, ça pue. Et le couple décide d'ouvrir, puis finalement, on se rend compte qu'il y a une moufette en décomposition dans le sac. Et là, ils se plaignent, mais ils ne peuvent rien faire. Puis à un moment donné, l'odeur, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que le clou, ils ont donné le droit d'un clou à l'ennemi. Et tu ne peux pas rien faire dans ta maison. Si tu lui donnes un clou, il va tout prendre. Et ces gens-là ont dû abandonner la maison parce que c'est invivable. Et par ton péché, tu donnes accès à Satan à ta maison. Est-ce que je peux entendre un pas un amen, mais aïe aïe, Seigneur, délivre-moi. Et c'est pourquoi on est esclave du péché. Et le problème, c'est que personne ne peut t'aider à tuer cet homme. Pierre va dire que va parler de ceux qui offrent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves. Dans ce monde, seulement Jésus peut t'aider. Seulement Jésus peut t'aider. Cet homme-là regarde aux autres. Et là, il y a des gens qui disent, « Oui, mais pasteur Guétin, moi, je suis chrétien. » Oui, tu es chrétien, mais le problème des chrétiens, c'est vous, c'est quoi? C'est que souvent, on était esclaves trop longtemps puis on continue de penser comme des esclaves. Moi, Jésus m'a libéré il y a 20 ans, mais des fois, je continue. J'étais tellement longtemps esclave du péché, esclave du diable, que j'ai besoin, comme a dit pasteur Claude, que Jésus me rappelle, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. J'ai besoin d'apprendre à marcher dans cette liberté. Est-ce que vous savez que Houdini avait lancé un défi, il n'y a pas un verrou d'une cellule qui va m'empêcher de sortir. Houdini s'est promené à travers le monde, et dans toutes les prisons qu'on l'a mis, il a été capable de sortir, sauf une fois. Il y a une fois, il est entré dans une prison, la porte a été fermée, et Houdini a tenté de sortir ses crochets pour tenter de déverrouiller la porte. Et à un moment donné, il a commencé à paniquer parce qu'après une heure, il était incapable de déverrouiller la porte. La seule fois, la seule fois de sa carrière. Et à un moment donné, après des, je pense que ça a duré 2 heures et demie, il est incapable, il se dit, je vais perdre ma réputation, une fois, il y a une porte que j'étais incapable de vaincre. Et Houdini, découragé, va mettre son front sur la porte et la porte va s'ouvrir. La porte n'avait jamais été verrouillée. Le seul endroit où la porte était verrouillée, c'était dans sa tête. Et les chrétiens, tu as besoin d'apprendre à marcher dans la liberté. Pourquoi? Parce que comme cet homme, pendant 38 ans, on était esclaves. Tu es toujours là, dis « Amen, Alléluia, dis quelque chose ». Le point que Jésus veut t'enseigner ici, c'est que tu es un cas désespéré. Regarde la personne à ta droite et dis-lui avec amour, tu es un cas désespéré. Et de l'autre côté, c'est votre mari ou votre épouse, dis-lui avec plein d'amour, tu es un cas désespéré, mon amour. Il peut même lui donner un petit bec. Et voici la bonne nouvelle. Maintenant, voici. Jésus le vit couché. Wow! Tu es un cas désespéré, mais nous n'avons pas dit, OK, nouvelle vie, merci, bonne semaine tout le monde, ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu aimes les bonnes nouvelles? Et maintenant, voici. Jésus le vit couché, sachant qu'il était là depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu retrouver la santé? » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt, l'homme retrouva la santé, il prit son grabat et se mit à marcher. Et c'est là qu'on voit que Jésus veut nous enseigner que tu es cet homme, tu es ce cas désespéré, mais deuxièmement, ce texte nous enseigne que Jésus est la source de la grâce. Jésus est la source de la grâce. Je pense que ça mérite plus qu'un amen, ça mérite une main d'acclamation. Jésus est la source de la grâce. Jésus n'offre pas la source. Jésus est la source. Jésus n'offre pas le chemin. Jésus n'offre pas la vérité, n'offre pas la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Le problème, c'est que tu ne peux pas aller à la source vient à toi. Et ici, on voit la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est trois choses. Les trois I de la grâce de Dieu, c'est qu'elle est initiée, imméritée et infinie. Est-ce que tu crois que la grâce, elle est initiée par Jésus? Est-ce que tu crois que la grâce, elle est imméritée? Est-ce que tu crois que la grâce, elle est infinie? J'espère, parce que ça fait 50 ans qu'on chante. La grâce de Dieu, elle est infinie. Et ce matin, la bonne nouvelle pour toi, peut-être que tu m'entends et tu réalises ton incapacité. Il y a des choses que tu ne peux pas changer dans ta vie. Dans ta maison, dans ton contexte, dans tes circonstances, il y a des choses, tu dis, je suis captif, Peut-être que je suis plein de bonne volonté, je suis un chrétien, une chrétienne. Il y a des choses que je ne peux pas changer. Est-ce que des gens, tu vis ça ce matin? Voici la bonne nouvelle, c'est que Jésus voit. Jésus voit et Jésus peut agir dans ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus n'agit pas si tu le mérites. Cet homme-là, est-ce que cet homme-là le méritait? Est-ce que cet homme-là pouvait faire quelque chose? La bonne nouvelle ce matin, c'est que la grâce, elle est imméritée. Pour que tu la comprennes, j'ai lu quelque chose qui, pour moi, là, c'est la plus belle illustration de la grâce. J'ai lu ça dans un livre où un homme, avec son épouse, a adopté une petite fille. Il raconte que cette petite fille avait déjà fait différents foyers, différentes maisons. Et lorsqu'elle est arrivée à 8 ans dans leur maison, elle était assez instable, assez colérique, tout ça. Et avec le temps, avec l'amour, tout ça, l'encadrement, ça a commencé à changer. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que dans la famille où elle était avant qu'il devait l'adopter, à plusieurs reprises, la famille a été à Walt Disney, à Disneyland. Mais ils ne l'ont pas amenée, elle, ils ont seulement amené les enfants biologiques. Et la petite fille a comme développé quelque chose par rapport à Disney, où c'est son rêve, elle voit les images, elle voit les princesses, mais puis finalement, dans son foyer précédent, ça n'a pas marché, l'adoption, la petite fille a été retournée. Puis cette famille-là, maintenant, deuxième famille qui veut l'adopter, et quand le père apprend qu'elle n'a jamais pu aller à Walt Disney, que c'était toujours les enfants biologiques pour plein de raisons, là, ça s'est dit, on va organiser un voyage à Disneyland. Et là, il a pris tous les enfants, peu importe, biologique, pas biologique, il a pris ses enfants, puis il a dit à la petite fille, on s'en va à Disneyland. Ouais! Mais c'est produit quelque chose d'inattendu. Le mois précédent, le voyage à Disneyland, la petite fille a commencé à être très méchante, à mentir, à voler des choses, à frapper. Continuellement. Et le père ne comprenait pas parce qu'il s'est dit, pour une fois, on lui donne ce qu'elle n'a jamais eu, puis elle réagit violemment. À un moment donné, comme ça dégénère, la petite fille fait une fuite, et ça empire. À un moment donné, il prend sa petite fille, puis lui dit, OK, la met sur ses genoux, puis il dit, faut que je te parle. Puis il lui dit, je sais ce que tu vas me dire, que tu ne m'amènes pas à Disneyland. Il raconte dans son livre que la tentation serait été de dire, tu as raison, si tu n'es pas fine, tu ne viendras pas à Disney. Mais ce n'est pas ça la grâce. C'est sûr qu'il y a des conséquences à tes actes. On réglera ça en temps et lieu. Mais est-ce que notre famille va à Disney? Elle dit oui. Est-ce que tu fais partie de la famille? Elle dit oui. Il dit, tu viens à Disney. Peu importe. Et là, ils partent à Disney. Puis ça ne s'est pas réglé du jour au lendemain, beaucoup de choses. Vous savez, souvent, quelquefois, lorsqu'on a tellement été disqualifié dans la vie, on a un pattern où on se disqualifie nous-mêmes parce que ça fait moins mal. Ça, c'est pas juste les enfants, il y a des gens qui sont ici comme ça. Tu as tellement été rejeté, disqualifié dans ta vie que tu as un pattern où tu te disqualifies toi-même parce que ça te préserve. Et là, ils vont à Walt Disney, et après la journée, alors qu'ils sont à l'hôtel, la petite fille est émotive. Puis le papa la prend, puis il dit, puis comment était ta journée? Ça a été la plus belle journée de ma vie. Il dit, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Il dit, j'ai appris que j'ai été à Disneyland, pas parce que j'étais gentil, mais parce que je suis ta fille. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu te bénit souvent de fois, pas parce que tu es bon, tu es gentil, mais parce que tu es son enfant et tu ne le mérites pas. Est-ce que je peux entendre vraiment amen? Dieu est fidèle. Et la grâce, elle est infinie. Vous savez, un des problèmes, ça fait plusieurs années, moi, à un moment donné, Dieu m'a impacté par sa grâce, ça a amené une transformation dans ma vie, parce que moi, je comprenais toujours qu'on était sauvés par grâce, mais j'avais l'impression que le reste, c'était par mes œuvres. Et à un moment donné, j'ai compris que dans la Bible, ça dit qu'on est sauvés par grâce, mais que le Dieu de grâce vous transformera lui-même. Que Dieu est plus grand, et non seulement que Jésus est ta justification, mais il est aussi ta sanctification. Que Jésus est tassé dans toutes les sphères de ta vie. Tu luttes avec le péché, t'assailles. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est tassé, Jésus est plus grand, Jésus est plus fort. La grâce de Dieu, elle est infinie. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous savez, puis quand je prêche ce message, le message de la grâce, il y a des gens qui me disent, Pasteur Gaétan, tu ne devrais pas prêcher la grâce comme ça. Parce que les gens vont abuser de la grâce. Et moi, ça me fait rire parce que vous savez comment on vient à la vie? Lorsque l'enfant sort du ventre de sa mère, c'est l'air entre dans ses poumons. Mais comment est-ce que l'enfant non seulement vient à la vie, mais comment l'enfant se développe? C'est par l'air. Et c'est comme si tu disais à quelqu'un, je vais te couper un peu d'air parce que tu abuses de l'air. Et ce n'est pas parce que des gens abusent de la grâce qu'on doit minimiser la grâce. La seule chose qu'on ait, s'il y a un mot qui résume Jésus, c'est qu'il est la source de la grâce. Et c'est ce que ce texte nous enseigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, la source de la grâce, se sert de ceux qui sont faibles. Est-ce qu'il y a des gens qui sont faibles ici ce matin? Des malades. Est-ce que des gens sont malades ici ce matin? Se sert des gens qui sont trop vieux. Est-ce qu'il y a des trop vieux ici ce matin? Pas besoin de lever la main, on vous voit. Est-ce qu'il y a des gens trop jeunes? Jésus se sert de ceux qui sont disqualifiés, de ceux qui sont incompétents, de ceux qui ne méritent rien, ne peuvent rien, ne sont rien. Et c'est ça que ce texte nous enseigne. Mais voyez ce qui prend place ensuite. Les chrétiens, souvent, on est comme ces pharisiens qui vont venir. L'homme est guéri. Jésus dit, prends ton grabat, il prend, et c'est une petite natte de paille, il prend ça, puis il s'en va. C'est le jour du sabbat. Et la Bible dit que le jour du sabbat, c'est un jour de repos, on ne fait pas de travail. Elle ne dit pas de rien faire, de ne pas transporter ta bouteille d'eau ou ton grabat. Et cet homme-là arrive, et là, les pharisiens le voient. Puis ils disent, hey, oh, ça passe pas, mon homme. Ils disent, oui, mais j'ai été guéri, hey. On parle de théologie ici. Tu as peut-être été guéri, tu as peut-être vécu un miracle, mais ce n'est pas ça le plus important. Tu ne peux pas porter ton grabat. Il faut être sérieux quand même avec Dieu. Et savez-vous ce qui m'a flabbergasté, c'est-tu un vrai mot, ça? Oui, c'est un mot correct? Ça se dit, ouais, je veux pas... Des fois, ça m'arrive, j'emploie des mots, puis on me dit, non, dis pas ça. Savez-vous ce qui me flabbergaste? Savez-vous où se déroule l'événement? À Bethesda. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Bethesda? Maison de la grâce. Wow! Frères et sœurs, voici mon troisième point. Est-ce que tu vis dans la maison de la grâce? Est-ce que tu vis vraiment dans la maison de la grâce? Alors que les croyants devraient célébrer la grâce. Ils sont la rejette. Vous savez pourquoi? Écoute-moi bien, là, c'est très profond. La grâce scandalise, mais la loi sécurise. Si tu n'as pas compris, on vous rappelle qu'il y a du café ici ce matin. Tu peux prendre ton café avant la réunion. La grâce, elle scandalise, elle nous dérange. Quand tu comprends vraiment, si tu n'es pas dérangé par la grâce, c'est que tu n'as pas compris la grâce. Parce que Dieu, la grâce nous dit que Dieu donne tout à ceux qui ne méritent rien. Puis on aime ça mériter des affaires. On aime ça s'accorder un petit peu de crédit. Et voici ce qui prend place ici. Citation. Même après être devenu chrétien, ton cœur est encore accro au salut par les œuvres. C'est naturel. Tu trouves ça difficile de croire que tu peux recevoir une bénédiction quelconque sans l'avoir méritée ou travaillée pour. Toute notre vie, naturellement, là, on est dans un monde d'œil pour œil, dent pour dent, le karma, on crache en l'air, ça nous retombe en... Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est écrit où ça dans la Bible, aide-toi et le ciel t'aidera? Il y a des chrétiens qui pensent que c'est dans la Bible. Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est écrit où? Non. Le ciel aide ceux qui ne peuvent pas s'aider. C'est le message de la Bible. Ici, les gens sont comme, wow! Quelqu'un qui a dit, si tu veux mettre les gens en colère, prêche la loi. Si tu veux vraiment les mettre en colère, prêche la grâce. Pourquoi? Veux-tu savoir pourquoi? Parce que la loi, elle te dit quoi faire. Puis les gens détestent se faire dire quoi faire. Mais la grâce, c'est pire. Les gens, le message de la grâce, et c'est dans les églises, c'est les chrétiens, on a de la difficulté, ça nous met plus en colère que la loi. Sais-tu pourquoi? Parce que ce qu'on déteste plus que se faire dire quoi faire, c'est se faire dire qu'on ne peut rien faire. Et tant que tu n'auras pas compris ça, tu n'auras pas compris Jésus. Et c'est pourquoi les chrétiens, on a des substituts à la grâce. On remplace la grâce par plein de choses dans nos vies. Je sais, je l'ai expérimenté, je le vois au portail, je le vois dans le monde évangélique. On remplace la grâce. Pourquoi? Parce qu'on veut quelque part un petit peu mériter la bénédiction. Et c'est intéressant parce que cet ange-là qui supposant, hein, c'est pas dans la Bible, là, c'est-à-dire c'est une vieille croyance superstitieuse, l'ange qui la bénédiction est là, mais il faut que c'est le premier qui rentre. Hein? Aide-toi et le ciel t'aidera. Et j'aimerais vous présenter quelques exemples de substituts à la grâce et je veux faire un avertissement. Et je suis un peu réconforté par Pasteur Claude qui dit dénoncer. Je sais que je l'ai fait la semaine dernière, je vais le faire la semaine prochaine. Je veux dénoncer les attaques de la grâce qu'on voit dans les églises. En même temps, je ne le fais pas pour la controverse. Je le fais pour libérer des captifs. Parce que des gens, c'est seulement le message de la grâce qui va te libérer. Parce qu'alors que Jésus t'a libéré, c'est pourquoi Paul va dire dans Galates, c'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Pourquoi? Parce que plein de chrétiens qui sont libérés, mais qui ne réalisent pas qu'ils retombent esclaves de la religion. Et on remplace la grâce, c'est-à-dire la faveur gratuite de Dieu, par plein de choses. Je vous en nomme quelques-unes. Le légalisme, c'est la faveur de Dieu par une obéissance supérieure. Si on est plus obéissant, vous savez, moi, à un moment donné, il y a une couple d'années, un dimanche matin, je ne mets pas de cravate pour venir prêcher. Ça a fait un scandale. Il y a un homme, à la fin de la réunion, puis j'avais prêché Jésus, des gens étaient venus à Jésus un bon moment, puis moi, je suis à la porte, je serre des mains, puis il me dit « Non, je ne te serre pas la main. » Je dis « Pourquoi? » Il dit « Tu n'as pas de cravate. » Histoire vraie, tu n'as pas de cravate. La cravate, c'est plus important. Tu peux prêcher Jésus, peut se faire, mais si tu n'as pas de cravate, ça ne compte pas. Et vous savez, c'est un peu comme les pharisiens de l'époque, les religieux. Qu'est-ce qu'on fait souvent, les chrétiens? Et là, je parle de nous, là. Dis à la personne à côté de toi, il parle de toi. Dis à l'autre personne, oui, oui, puis il parle de moi aussi. Savez-vous ce qu'on fait? C'est un peu comme, par exemple, si je veux protéger mes enfants, je dis à mes enfants, j'ai une piscine à la maison, va pas dans la piscine si les parents ne sont pas là. Puis à un moment donné, ce que je fais, je mets une barrière autour de la piscine. Puis à un moment donné, j'ai tellement peur que mes enfants aillent dans la piscine que je dis, restez dans la maison, mais même pas aller dans la cour. Puis j'ai tellement peur qu'à un moment donné, ça leur prenne par la tête de sortir dans la cour, puis d'ouvrir la barrière, puis d'aller dans la piscine, que finalement, je leur dis, va-t'en dans ta chambre au sous-sol, puis je barre la porte. J'ajoute des règles pour protéger la parole de Dieu. C'est ce que font les pharisiens, c'est ce que font les chrétiens. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, on m'a dit, un chrétien, tu peux pas prendre d'alcool. La première fois, ma femme m'avait demandé d'aller acheter du vin pour sa recette. J'étais terrorisé à l'épicerie, j'avais peur de rencontrer mon pasteur. Je vous le dis, je priais, Seigneur, au nom de Jésus, protège-moi. Et moi, je suis grandi dans un monde où un chrétien, tu peux pas écouter la télé, je viens d'un milieu où tu peux juste lire des livres chrétiens, juste des films chrétiens, puis on est dans un monde d'abstinence où on pense que on a une abstinence supérieure, que là, on va gagner des points, que Dieu va nous regarder. Puis dans notre bon livre du petit chrétien, on va avoir des collants, puis Dieu dit « Oh, tout est bon. » Ça fait du sens, je dis juste un petit « Amen ». Ou de la musique, au niveau des... Et là, je le vois dernièrement, on dirait que toute une vague anti-Noël. Un chrétien ne devrait pas célébrer Noël. Puis là, il y a du monde, là, si tu ne célèbres pas Noël, puis là, Dieu est impressionné, il dit « Oh, tout est bon. » Alors que Jésus a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Souvent, on est non seulement dans l'ascétisme, on est dans le spiritualisme, on est dans une spiritualité supérieure pour impressionner Dieu. Moi, à un moment donné, Dieu m'a ramené sur la manière que je jeûnais. Pendant longtemps dans ma vie, je jeûnais lorsque j'étais dans une impasse, je jeûnais pour mettre de la pression à Dieu. Là, je me disais, là, après, mettons, 5, 6, 7, 8 jours, Dieu va me regarder, il va dire, « Oh, il y a le ventre vide, OK, ça, on parle. » Alors que j'ai compris que le jeûne ne met pas de la pression sur Dieu, le jeûne me dispose, moi, à recevoir ce que Dieu veut. Moi, pendant longtemps, on me dit, un chrétien devrait avoir un culte personnel à tous les jours. Puis les jours où je n'avais pas mon culte personnel, je me sentais condamné. Puis quand il m'arrivait quelque chose dans cette journée, je me disais, « Dieu me punit parce que je n'ai pas prié un matin. » Là, moi, on me disait même, non seulement tu dois prier à tous les jours, puis oui, on doit prier, puis oui, on doit lire la Bible, puis oui, je le fais, mais la réalité, on me disait, il faut que tu le fasses une heure. Puis là, on regardait, là. Et là, à un moment donné, c'est ridicule, là, parce qu'à 59 minutes, Dieu ne te bénit pas, mais à une heure, Dieu te bénit. Il y a comme la minute de gloire qui vient de changer. Et il y a plein de choses comme ça qu'on enseignait où je me souviens, à un moment donné, dans une réunion, un grand dirigeant de mouvement qui dit, OK, j'ai à cœur, on va chanter, puis on va lever nos bras, puis on va garder nos bras levés le plus longtemps possible afin que Dieu nous donne sa bénédiction. Est-ce que vraiment tu penses que Dieu va nous bénir comme ça? Et la réalité, c'est que souvent, on est comme ces gens-là, c'est-à-dire, on essaie de trafiquer la bénédiction. Quelquefois, on tombe dans le mysticisme. Et là, je vous dis, le prochain point, là, c'est ma conviction personnelle, j'engage personne, j'engage pas Nouvelle Vie, c'est ma conviction à lecture en étudiant la parole de Dieu, mais quand j'entends du monde qui vont aller voir d'autres personnes, parce que la personne a le cancer, elle va dire, ça c'est parce que tu as du non-pardon dans ta vie. Dites-moi que ça n'arrive pas. Ou quelqu'un qui va dire, moi j'ai un de mes amis qui est mort du cancer à 30 ans, puis dans les derniers mois de sa vie, il passait son temps à essayer de trouver les liens générationnels qui faisaient qu'il y avait le cancer. Les gens vont dire, « Ouais, mais pasteur Gaétan, tu ne devrais pas aller là. » Oui, je vais aller là. Savez-vous pourquoi? Parce que moi, ma sœur a eu le cancer. Ma mère est morte du cancer. Présentement, mon père lutte avec un cancer très, très agressif au niveau du cerveau. Il y a des gens qui disent, « Pasteur Gaétan, il faut que tu brises les liens générationnels. » Quand je suis venu à Jésus, moi, j'avais touché à la sorcellerie. Des gens m'ont dit, « Oh, tu devrais avancer. On devrait prier pour toi pour que tu sois délivré. » Et ma réponse à ça, ça a été, j'ai pas besoin. Savez-vous pourquoi? Peu importe ce qu'on peut me dire sur mes liens générationnels ou spirituels ou occultes, la Bible me dit, à un moment donné, qu'est-ce que la Bible dit? Pas qu'est-ce que ma tante dit. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la Bible. Quelquefois aussi, on est dans le matérialisme où on veut la faveur de Dieu par une générosité supérieure. Une des choses qui ravage nos églises, c'est l'évangile de la prospérité, où des évangélistes vont dire aux gens, « Donne, donne ton offrande, donne ta semence et Dieu te donnera au centuple. » Mais moi, j'ai le goût de dire, « Fais-moi un chèque à moi puis Dieu va te donner au centuple à toi. » Pensez à ça. J'ai quelqu'un qui me dit à un moment donné, il dit, un homme, il dit, pasteur Gaétan, j'ai trouvé un nouveau travail, puis je veux donner la semence de bénédiction à l'Église. Amen. Puis je veux te la remettre en main propre, puis je veux que tu pries pour moi. Non. Pourquoi? C'est deux choses séparées. Si tu veux offrir ton action de grâce au Seigneur pour ton nouvel emploi, oui, c'est une bonne chose. Si tu veux que je prie pour toi, je prie pour toi, offrande, pas offrande, chèque, pas chèque, argent, pas argent, c'est deux choses séparées. Et des fois, on fait des liens comme ça. On fait des liens. Il y a des gens qui sont en difficulté financière, ils vont dire, ton problème? Puis oui, évidemment, il y a générosité, mais ton problème, là, c'est que Dieu veut que tu sois prospère. OK, le verset qui dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que c'est un beau verset? Dans le contexte, l'apôtre Paul dit, « J'ai appris à vivre dans la prospérité, dans la pauvreté. » Dieu ne prêche pas la pauvreté, mais de dire à un moment donné, quand j'entends des pasteurs dire, « Moi, j'ai une Rolex. » Pourquoi? Pas parce que j'ai besoin d'une Rolex, parce que mon voisin non-chrétien a besoin de voir que Dieu bénit l'homme de Dieu. On est dans le matérialisme. On est quelquefois même dans la faveur de Dieu par une foi supérieure. Une des choses que je déclare et que je dénonce, c'est que trop souvent les chrétiens, on a la foi dans la foi au lieu d'avoir la foi en Jésus. Où on dit plus de foi, plus de foi, plus de foi, puis à chaque fois que ça ne marche pas, c'est comme s'il y a un manque de foi. Mais est-ce que ça se pourrait que Dieu, dans sa souveraineté, ce ne soit pas le problème, ce ne soit pas ta foi, c'est Dieu qui dit non? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir la foi? Non. Ce que je dis, c'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas la quantité ou la qualité de ta foi, c'est l'objet de ta foi. C'est ta foi en Jésus. La foi, ce n'est pas une performance, c'est une relation de confiance avec Jésus. Et on attaque la grâce. Vous n'êtes pas sûr encore. Ça fait mal, mais on va applaudir pareil. Des fois, on est dans le moralisme où on pense avoir la faveur de Dieu par une moralité supérieure. Et ça, il y a des parents, des fois, on est comme ça. Hein, notre jeune, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne couche pas, il ne sort pas, il est à l'église. Hallelujah. Mais il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Et dans combien des fois, puis moi j'ai dit à ma gang, j'ai dit au ministère des enfants, j'ai dit, vous n'avez pas besoin de commencer à dire aux enfants, là, de leur prêcher la moralité, prêche-leur la vie en Jésus, et suite à la vie en Jésus vient un nouveau comportement. Et souvent, vous savez, moi à la maison, j'avais un vieil escalier pourri, puis j'ai eu une idée géniale à un moment donné, parce que ça me fatiguait. Ma femme m'en parlait toujours, j'ai décidé de peinturer. Et voilà, c'est réglé. C'est quoi le problème? Une couche extérieure qui ne change pas l'intérieur. Une moralité sans la nouvelle naissance, c'est juste une couche extérieure. Ce que les gens ont besoin, ce n'est pas plus de morale, ils ont besoin d'un cœur nouveau à la gloire de Dieu. Ils ont besoin d'être sauvés de leurs péchés. On est dans le moralisme, on est des fois dans le paganisme même. Je vais arrêter après, je vous le promets, là. Les chrétiens qui disent, « En tout cas, je touche du bois, là, mais j'espère que... » Le seul bois que tu dois toucher, c'est la croix de Jésus. Est-ce que tu penses vraiment qu'en croisant tes doigts, que le Dieu Tout-Puissant, c'est OK, mais ça compte pas? Ou des fois, même, on négocie, on est dans le paganisme, c'est-à-dire, on se dit, Seigneur, je vais renoncer, je te donne tel péché si tu me donnes telle bénédiction. Dieu n'est pas un marchand de tapis au marché aux puces. Renonce à ton péché, coûte que coûte. Tu négocies pas avec Dieu. Ou des gens qui viennent plus ou moins à l'église et lorsque tu dois signer un gros contrat durant la semaine, tu viens à l'église. Et tu dis, oh, wow, là, je suis impressionné. Voyez-vous? Tout ça attaque la grâce, attaque la source de la grâce, attaque Jésus. C'est pas le christianisme, c'est pas l'évangile, c'est pas la bonne nouvelle, c'est rien. Et quand tu réalises l'œuvre de la grâce de Jésus, c'est tellement pur, bon, doux et précieux, tu refuses de souiller ça avec quoi que ce soit d'autre. Ok, je vous en donne un dernier. Un qui vient de... Souvent dans mon ministère, les gens disent, « Pasteur Guétin, viens prier pour ma maison. » Parce que ma maison, soit est tentée, il y a des mauvaises vibrations. Là, depuis qu'on habite là, on chicane beaucoup, ma femme et moi. Mes enfants ne sont pas du monde. Encore une fois, tu as besoin, quand ta théologie est robuste, ça influence tout le reste. Nulle part dans la Bible, les esprits sont dans le J-Proc. Ça, c'est Hollywood, c'est pas la Bible. Les démons sont réels, les esprits sont réels. C'est toujours attaché aux gens, puis à un moment donné, je m'en vais chez ce jeune couple. Puis il dit, « Ouais, mes enfants, tout ça. » Puis j'arrive, il dit, « OK, tu peux prier pour la maison, là. Tu peux imposer les mains au mur. » Je dis, « Non. » Je dis, « Je vais prier pour vous. Mais le problème de ta maison, pourquoi tes enfants ne sont pas du monde, c'est pas à cause qu'il y a des esprits, c'est parce que tu les as mal élevés. » Opinion personnelle, opinion personnelle. Voyez-vous, des fois, on déplace, c'est pas ça le problème. La vraie solution, c'est de dire, Jésus, donne-moi la grâce de bien bâtir ma famille, donne-moi la grâce d'être un bon mari, donne-moi la grâce d'être un bon père, donne-moi la grâce de renoncer au péché, de les élever dans la bonne nouvelle. Il y a des défis qui sont réels. Je suis venu prêcher là-dessus la dernière fois. Mais souvent, on est dans toutes sortes de choses, comme c'est, on regarde l'ange qui va brasser la piscine, regarde Jésus qui est la piscine. Ne contamine pas la source de la grâce. À un moment donné, je suis avec ma famille dans une piscine publique. Puis à un moment donné, on nous dit, « OK, sortez, sortez tout le monde! » Moi, je dis, « Non! » Là, je vois les gens sortir, sortir, et là, nous, on est là, il fait chaud, puis non, donne-moi des raisons. Puis là, à un moment donné, je vois des choses se promener avec quelqu'un qui avait été malade dans la piscine. Lorsqu'on ne réalise pas la grâce de Dieu, ne sois pas celui qui contamine la source de grâce pure qu'offre Jésus. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais c'est le diable, là, il peut faire en sorte que tu sois dans l'Église, il peut faire en sorte que tu aies un message chrétien. Ce que le diable ne veut pas, c'est que tu comprennes la grâce. C'est pour ça qu'il y a des attaques sur la grâce. Et regardez ce qui prend place. Jésus s'en va. Il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais pasteur Guétan, l'obéissance, la spiritualité, la prière, la persévérance, c'est pas important. » C'est pas ça que je dis. Je dis juste que tous ces éléments-là ne sont pas la cause de la bénédiction, c'est la conséquence de la bénédiction. C'est parce que tu es un enfant de Dieu, c'est parce que tu es béni, que tu donnes, que tu pries, que tu cherches, que tu donnes, que tu es généreux, pas pour mériter quelque chose, parce que tu n'as pas besoin d'accomplir, tout est accompli. Dieu ne me bénit pas parce que j'ai assez prié, parce que je me suis assez consacré, parce que j'ai assez fait ci, assez fait ça. Dieu te bénit parce que Jésus est assez. Et quand tu le réalises, oui, tu pries, oui, tu cherches sa face, oui. Pourquoi? Parce que tu as compris que tout à coup, ton christianisme, ce n'est pas une performance, c'est une relation de confiance. Et regardez ce qui prend place après. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Eh bien, tu as retrouvé la santé. » Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus n'est pas la source de ta maladie et de ton bonheur. Ici, j'ai un point très, très pastoral. Jésus dit, premièrement, ne pêche plus. Et là, en passant, là, pour tous ceux qui pensent que le message de la grâce peut pervertir les gens, Jésus attaque deux mauvaises conceptions de la grâce. Premièrement, la grâce n'est pas une permission. Des fois, les gens ils vont pêcher et vont dire, oh, on est sous la grâce. Quelle sorte de Bible tu lis? La grâce n'est pas une permission pour pécher, la grâce et la puissance pour ne pas pécher. La grâce, elle est puissante. Et là, des gens vont dire encore une fois, oui, mais on est sous la grâce. Tu n'as rien compris. La grâce, et là, cette phrase est vraiment importante. La grâce n'est pas opposée à l'effort. Elle est opposée au mérite. Je le répète parce qu'il est encore tôt ce matin. La grâce n'est pas opposée à l'effort, elle est opposée au mérite. L'apôtre Paul va dire, j'ai travaillé avec votre salut. La grâce te permet de travailler fort. Tu n'es pas un chrétien slampé, tu es quelqu'un qui se consacre, qui cherche la face de Dieu, qui prie, qui aime les autres. La grâce, c'est un moteur, c'est un véhicule. Elle n'est pas contre l'effort, elle est contre le mérite. Quand tu reçois un cadeau, est-ce que tu fais au moins l'effort de le déballer? Non, vous ne faites pas ça à Nouvelle-Vie, vous avez un cadeau, vous le laissez là parce que vous êtes sous la grâce? Moi, c'était ma fête dernièrement, on me donne un cadeau, c'est un cadeau gratuit, c'est une grâce, mais il y a l'effort de le déballer. Et la vie chrétienne, c'est déballer le cadeau de la grâce que Jésus déverse dans ta vie. Et là, il y a une phrase qui est très mal interprétée. Il lui dit, « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et des fois, les pasteurs vont dire, Jésus est en train de dire, là, je t'ai guéri, là, mais marche droite, parce que tu vas être encore plus malade. Le contexte ici. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'un texte hors de son contexte est un prétexte? Immédiatement après ce récit, dans Jean 5, Jésus va parler du jugement dernier. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que mon ami, ton plus grand problème, ce n'était pas ta maladie. Ton plus grand problème, c'est le péché. La plus grande œuvre que je fais dans ta vie, ce n'est pas la guérison, c'est de te sauver. Et lui, lorsque Jésus parle de quelque chose de pire, il lui dit, il veut l'amener à la repentance, il lui dit, « Ne sois pas celui que j'ai agi dans sa vie qui finalement ne se repent pas pour au bout de la ligne, tu finis l'éternité en enfer. » Parce que ça, c'est pas mal pire qu'être infirme sur le bord d'une piscine. Et ton problème le plus important, alors qu'on vit toutes sortes de choses, c'est d'être réconcilié avec Dieu, c'est de recevoir le pardon de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Et c'est ça que ce texte nous enseigne. Vous savez, les Romains avaient un supplice. Lorsqu'on voulait vraiment punir un homme, on le prenait et on l'attachait à un cadavre. Collé, on l'attachait. Et on le laissait là. Et finalement, le mort amenait le vivant dans la mort avec lui. Et peut-être, je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie, mais peut-être que c'est ça que l'apôtre Paul veut dire lorsqu'il dit « Dépouillez-vous du vieil homme ». Ce qu'il est en train de dire à cet homme, c'est que tu as besoin de renoncer au péché. Ne sois pas juste celui qui court après la bénédiction, sois celui qui court après la pureté, après la sainteté, après le pardon, après la vie nouvelle. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Parce que lorsque tu as reçu vraiment la grâce de Dieu, tranquillement, arrache le goût du péché dans ton cœur. Si quelqu'un l'a déjà vécu, est-ce que je peux entendre amen? Que je ne suis pas le seul fanatique ici? Fanatique de la grâce. Maintenant, j'ai une question vraiment importante. Et je le fais encore pour un but pastoral. Est-ce que la maladie ou le malheur d'un chrétien peut être une punition divine suite à un péché? Les gens vont dire, « Pasteur Guetta, pourquoi tu parles de ça? On ne se pose pas ces questions ici. » Dans ma pratique pastorale, j'entends souvent des gens qui vont dire, « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? » Je vois des jeunes couples qui ont une fausse couche puis qui sont condamnés parce qu'ils disent peut-être parce qu'il y a telle affaire qu'on a faite ou telle chose qu'on n'a pas faite. Je vois des gens qui vivent des drames, des gens qui vivent des maladies, je parlais de cancer, qui vivent. Et la réponse officielle, la belle réponse, c'est non, mais dans le fond du cœur, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Des accidents, des drames, des pertes d'emploi, des fois illégitimes. Je parlais avec un couple, cancer, faillite, des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Tu as l'impression que tu viens à Jésus. Quand tu étais sans Jésus, tu étais prospère et en santé, tu viens à Jésus et tu es en faillite et malade. Puis êtes-vous d'accord? C'est une question quand même qui se pose. Et Dieu n'a pas peur qu'on pose des questions difficiles. Et maintenant, en 3 minutes, OK, je veux juste t'expliquer comment Dieu fonctionne pour donner le bien ou donner le mal. en 3 minutes, OK, je ne serai pas long. Là, dis à la personne à côté de toi, OK, on va faire un petit peu de théologie ce matin. OK, vous n'aimez pas ça, c'est pas grave. OK, dites-le pas. Juste que tu comprennes, parce que ça va libérer des gens. OK? Dans la Bible, premièrement, la mort, la maladie, le malheur, c'est la conséquence du péché originel. On est d'accord? Nous sommes un monde révolté, en rébellion, et nous vivons la conséquence de notre vie sans Dieu. Mais tu peux donner ta vie en Jésus, mais on est encore dans un air, dans une sphère où on est en rébellion, on est dans un monde, on vit la conséquence du péché. Et dans la Bible nous dit que Dieu est souverain. C'est pourquoi Job va dire, à un moment donné, alors qu'il est malade, puis sa femme va l'amener à se plaindre, il va dire, « Dieu nous donnerait le bien, il ne nous donnerait pas aussi le mal. » Quels sont ceux qui croient que Dieu est toujours en contrôle? Maintenant, la Bible nous dit troisièmement que Dieu bénit le juste et que Dieu punit le méchant. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu. C'est toujours là, dit « Amen ». Maintenant, comment comprendre les passages qui disent, par exemple, dans Exode, où Dieu va dire, « Je ferai grâce jusqu'à 1000 générations, mais ton péché rejaillira jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Les gens qui utilisent ce verset-là pour parler justement des liens générationnels. Il faut que tu comprennes ce qu'on appelle dans la Bible la révélation progressive. Dieu n'est pas arrivé au début en disant, « Voilà, tout est là. » Dieu s'est révélé progressivement dans l'histoire pour arriver à Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans ce texte-là? Premièrement, que le péché n'est jamais individuel, il y a toujours des conséquences à nos péchés. Est-ce que tu es toujours là? Mais également, ce texte veut nous dire que la grâce de Dieu est toujours plus forte que le péché. Maintenant, ça arrive à une autre étape où Jérémie va dire, un petit peu plus tard, il va dire, « Celui qui a péché, c'est lui qui va mourir. » C'est-à-dire que la rétribution, elle est individuelle. Et on a l'histoire de Job, qui est un bon chrétien, qui est malade, qui perd des proches. Et Job nous enseigne que la rétribution sur cette terre, elle est imparfaite. Pourquoi? Parce qu'il arrive de bonnes choses à de mauvaises personnes et il arrive de mauvaises choses à de bonnes personnes. Sur cette terre, c'est imparfait. Et c'est pourquoi, lorsque dans Jean 9, on va arriver, on va dire à Jésus, les disciples vont dire, « Hey, l'aveugle, c'est qui a péché? C'est lui ou ses parents? » Jésus a dit, « Vous n'avez rien compris. Cette maladie-là, elle est pour la gloire de Dieu. » Et Jésus nous enseigne que la rétribution, elle n'est pas sur cette terre. Ta maladie n'est pas la conséquence de ton péché. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. La rétribution ultime, elle est dans l'éternité. Elle est spirituelle. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour nous sauver du jugement de Dieu. Si tu le crois, dis « Amen ». Maintenant, on arrive à toi. Tu dis « OK, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui arrive? Ce que je vis, qu'est-ce qui peut m'assurer que mon épreuve n'est pas une punition de la part de Dieu? » Jésus donne la réponse. Immédiatement, toujours après ce texte-là, verset 24, voici ce qu'il va dire. « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entend ma parole, qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. » Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont Jésus ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont Jésus dans ta vie? La Bible dit deux choses. Tu es passé de la mort à la vie. Amen. Déjà, il y a la semence de la vie, une nouvelle naissance qui va rejaillir jusque dans la vie éternelle. Mais la Bible dit que si tu as Jésus dans ta vie, Jésus a subi le jugement pour tous tes péchés. Tes péchés passés, présents et futurs. Et pour ceux qui n'ont pas compris, je dirais que Jésus a subi le jugement non seulement pour tout, mais pour tous tes péchés. Je vais commencer à prêcher dans quelques instants, restez avec moi. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est comme cette histoire, à un moment donné, où il y a un feu dans une prairie. Et il y a un père qui est avec son petit gars, puis le feu est partout. Feu de forêt, la prairie, eux sont pris dans la prairie, puis le feu arrive rapidement. Et là, le petit gars est terrorisé. « Papa, on va mourir, brûler. » Et là, le père cherche, puis finalement, il dit « Non, viens avec moi. » Et ils se tiennent à un endroit où ça a déjà été brûlé. Puis le petit garçon dit « Mais papa, le feu va venir quand même. » Puis il dit « Non, si on se tient ici, le feu ne passe pas une seconde fois où il est passé une première fois. » Le jugement de Dieu ne passera pas une deuxième fois sur ta vie alors qu'il est passé sur Jésus. Amen. Si tu as mis ta foi en Jésus, oui. Pourquoi je prends ça à cœur? Parce que c'est très présent, ça se parle beaucoup, il y a des combats du cœur. En fait, comment je peux résumer? Arrête de te demander pourquoi. Alors que toi, tu te préoccupes pourquoi tu es éprouvé. Dieu, ce n'est pas le pourquoi qu'il regarde, c'est le comment tu vas vivre ton épreuve. Et quelqu'un va dire, oui, mais, OK, si Jésus n'est pas la source de mon malheur, de ma maladie, qui est Jésus? Jésus n'est pas la source. Si tu es un chrétien, Jésus n'est pas la source de ton épreuve, de ton malheur, de ta maladie. Jésus est ta source de grâce dans l'épreuve, dans le malheur, dans la maladie. Est-ce que je peux entendre un alléluia? Et je termine avec ceci pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Et Jésus va terminer justement, il va échanger avec les pharisiens, il va parler de son œuvre, il va parler de sa personne. Et tranquillement, vous lirez à la maison le reste du texte, Jésus présente sa bonne nouvelle. Et alors qu'on regarde ce texte, tu es cet homme, et peu importe ton expérience avec le Seigneur, peut-être tu es invité ce matin, peut-être tu viens à l'église depuis un bon bout de temps, tu n'as jamais été réconcilié, il n'y a pas de moment où tu te rappelles où vraiment tu as mis ta foi, tu t'es repenti, tu as réalisé qu'il n'y avait rien de bon en toi et tu n'as pas reçu cette grâce. Le message que j'ai pour toi ce matin, c'est « Reçois la bonne nouvelle de la grâce et de la personne de Jésus. » Et dans ce texte-là, encore une fois, tout est cohérent. Jésus va se faire égal, va dire « Voici avec le Père » et on va vouloir justement se débarrasser de Jésus parce que Jésus prétend qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et pourquoi est-ce que Jésus sauve? Pourquoi est-ce que Jésus est la grâce? Pourquoi est-ce qu'il pardonne, il libère? Pourquoi il est le seul chemin? Pourquoi il est la vérité, la vie? Pourquoi il est la résurrection? Pourquoi Jésus est tout ce que tu as besoin? Pourquoi Jésus est suffisant? Parce que Jésus est Dieu qui a marché sur cette terre. Ce n'est pas un homme ordinaire, ce n'est pas un prophète. Il a marché sur cette terre. Et durant cette vie, il a eu une vie de parfaite obéissance. Les gens disent souvent, c'est la mort de Jésus qui me sauve. C'est plus que ça. C'est ce qu'il est, c'est sa vie. Lui, il a parfaitement obéi. Et lorsqu'il est mort à la croix, il peut mourir pour tous les péchés de tous les hommes de l'histoire de l'humanité qui se confient en lui. Et non seulement le Fils de Dieu qui meurt à la croix, cette expiation-là, elle est parfaite. C'est tellement vrai qu'il est le Fils de Dieu que la mort n'a pu le garder. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la mort, c'est le péché, et il n'y avait pas de péché en Jésus. Jésus est ressuscité. Et non seulement il est ressuscité, il est monté à la droite de Dieu le Père, il a le nom au-dessus de tout nom, et un jour tout genou fléchira et toute bouche confessera qu'il est Seigneur. Et il intercède pour toi, et il revient établir son royaume de manière triomphante, et tous sauront qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est le Jésus que nous déclarons, que nous croyons, que nous prions. Alléluia! Sur quoi levons-nous et acclamons le Seigneur? Lève-toi, lève-toi, acclame Jésus, le Dieu de la grâce. Dieu de la grâce, grâce infinie, limitée. Je termine avec deux appels. Alors qu'on penche la tête quelques instants, tu es ici ce matin. Et Jésus te dit comme à cet homme, veux-tu retrouver la santé? Dans le texte, c'est plus que la guérison, c'est veux-tu changer? Veux-tu que je te transforme? Tu es ici ce matin et tu sens dans ton cœur que c'est le moment où tu dois recevoir Jésus dans ta vie. Tu réalises que tu es un cas désespéré. Tu réalises ton péché. Tu réalises ton désespoir. Félicitations, on l'a tous réalisé. Tous les chrétiens l'ont réalisé un jour. Et je t'invite à recevoir la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Tu dis, Pasteur Gaétan, mais qu'est-ce que je peux faire? Rien, reçois-le, confie-toi en lui. Confie-toi en lui, par la foi seule. Et si c'est ton cas ici, est-ce que tu peux juste lever la main? Signe de foi. Tu es ici ce matin, tu veux recevoir Jésus. Je vois votre main. N'ayez pas honte de lever la main. C'est un grand jour pour vous. Tu as la personne qui lève la main. Quelqu'un d'autre qui veut recevoir Jésus ce matin. Ouvrez vos mains. Merci, vous pouvez baisser vos mains. Deuxième appel que je veux faire pour des hommes et des femmes qui sont malades. Je vais être cohérent avec mon message. J'espère ce matin voir une des choses qui me brise le cœur en tant que pasteur, c'est de voir des gens malades, brisés par la maladie, mais brisés par la condamnation, la culpabilité, cherchant peut-être où ils ont failli. Moi, je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Je sais que Pasteur Claude est dans deux messages, et je crois que Jésus est la source de la grâce, mais il est la source de tous les miracles, et que Jésus n'est pas compartimenté. Il peut guérir ce matin, même si le thème, ce n'est pas les miracles. Est-ce que tu es là? Et le thème de la grâce est intéressant parce qu'un Corinthiens 12 nous parle que Dieu guérit, don de guérison. Mais 1 Corinthiens 12, le verset 3, nous dit que c'est un don de la grâce. Ça veut dire que Dieu guérit pas parce que tu as eu assez de foi, pas parce que tu as prié assez fort, pas parce que tu as dansé, pas parce que tu as fait tous les temps. C'est un cadeau, c'est un don de la grâce. Il guérit pour se glorifier. Se glorifier de sa puissance et se glorifier de sa grâce qui sauve et guérit des gens qui ne le méritent pas toujours. Est-ce que des gens étaient ici ce matin? Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de guérison. Vous êtes malade, vous aimez Jésus, vous aimeriez que je prie pour vous, vous aimeriez recevoir une guérison. Est-ce que vous pouvez lever la main? Que personne, vous êtes malade, peu importe. Il n'y a pas de petite ou de grande maladie. Tu as besoin d'une touche du Seigneur. Seigneur Dieu, Dieu de grâce, on vient devant toi avec humilité, sachant que rien en nous, tout est en toi. Sachant que Jésus, son œuvre, elle est suffisante. Seigneur, on n'inclame pas la justice, on n'inclame pas nos mérites. Seigneur, on réclame simplement ta grâce, dans ta compassion, dans ta miséricorde. Seigneur, viens au secours de tes enfants qui ont besoin d'une guérison. Seigneur, viens manifester ta gloire. Viens agir pour la gloire de ton nom et la gloire de ton nom seul. Seigneur, nous implorons, nous regardons à toi, Jésus, source de grâce qui sauve, qui libère et qui guérit encore aujourd'hui. Celui et celle qui crie à toi, Seigneur, agis dans ce lieu. Agis dans ce lieu comme tu as fait pour cet homme. Nous prions que tu manifestes ta puissance, ta gloire et ta grâce dans ce lieu au nom de Jésus. Ta parole n'a pas changé, tu n'as pas changé. Seigneur, nous venons à toi comme des mendiants, comme cet homme, comme des paralytiques, disant rien en nous, rien en nous, rien en nous. Mais Seigneur, tu nous aimes et Seigneur, tu veux nous bénir. Non parce qu'on a travaillé pour, mais simplement parce que nous sommes tes enfants et tu es un bon papa qui bénit ses enfants. Donc, Père, on regarde à toi et donne à chacun de tes enfants ce matin ce qu'il a besoin au nom de Jésus. Est-ce que l'Église Nouvelle-Vie peut dire « Amen » et acclamer le Dieu des miracles et de la grâce? Alléluia!